LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Aphorisme du professeur pour servir de prolégomène à son ouvrage et de base éternelle à la science.
Allez, on s'installe.
Très bien.
1.
L'univers n'est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit. Deuxièmement, les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. Troisièmement, la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Quatrièmement, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
Jean Anthelme Brias-Savarin, 1825.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Mais c'est tellement ça. Ça dit des choses, des univers dans lesquels on a grandi ou dans lesquels on aime vivre. C'est extrêmement... C'est passionnant, en fait. Regarder un escargot et vouloir le manger, parfois, et le suivre sa trace, c'est remonter à 3 ou 4 ou 10 000 ans d'histoire. C'est fascinant, ça, pour le coup. C'est fascinant.
La série documentaire
Manger la France.
Dis-moi qui tu manges.
Épisode 1.
Pavé embrouillé.
Le ventre de Paris.
La série documentaire Dis-moi ce que tu manges. Je m'appelle Farida. Farida, mais mon vrai nom c'est Françoise Dupont.
Là-bas.
On a tous enfoui en nous un plat qui nous raconte. Le souvenir d'une crème caramel, ou de patates sautées qui n'ont le goût d'aucune autre et qui disent un bout de notre histoire et de nos trajectoires intimes. Mais quand on vit dans un pays comme la France, où le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et où l'on passe en moyenne 2h13 à table par jour, dans un pays de vin, de fromage, de pâtés, de blanquettes et de tartes aux pommes, ces souvenirs-là ont peut-être un autre goût. Un goût de tradition, à réciter comme une grammaire ou une conjugaison à brandir comme un petit bécherel rouge qu'il faudrait connaître et même fréquenter régulièrement, surtout le dimanche midi en famille, pour savoir goûter la France. Et pourtant, depuis que j'ai fait une série documentaire sur le microbiote pour LSD, je sais que nous mangeons aussi chaque jour des invisibles qui viennent d'ailleurs, des bactéries qui ont voyagé et qui vont influencer nos goûts et nos identités françaises qui sont tous figées et même bien vivantes.
France m'a rendu à sa cuisine! Une cuisine qui parle au ventre, au cœur, à l'esprit. Une cuisine bien française, une cuisine bien de chez nous. Une cuisine tricolore, messieurs, vive la France.
J'ai découvert les liens entre nos envies, nos humeurs, notre histoire et ce que l'on mange. Et j'ai aussi réalisé combien l'ingestion de nourriture ultra transformée pourrait influencer nos vies et nos goûts à long terme, dans une époque où peu d'entre nous assistent aux étapes de la production, de la transformation et même de la préparation de ce que l'on mange. Et puis surtout, j'ai participé au projet French Guts du très sérieux Institut National INRAE qui vise à cartographier le microbiote des Français pour savoir si notre alimentation tricolore si particulière aura des conséquences sur la santé dans 50 ans. Et pour ça, l'INRAE stocke l'ADN de nos bactéries intestinales françaises encapsulées dans un coffre-fort à Jouy-en-Josas, comme si nos bouches et nos corps étaient devenus des archives nationales vivantes.
Moi, je suis un peu émue parce que comme je participe au projet French Cut, j'ai un petit bout de mes selles qui est dedans.
Oui. Vous avez été volontaire pour donner un échantillon pour le French Cut et du coup, on a effectivement ici une archive de tous nos volontaires. Pour l'instant, quelques milliers, et dans l'avenir, jusqu'à 100 000 individus.
Mais en réalité, je ne suis peut-être pas comme les 100 000 autres Français de ce panel censés représenter notre pays. J'ai découvert la blanquette de veau à la cantine, je n'ai jamais mangé de camembert ni de riz de veau. Alors, est-ce que je suis vraiment légitime pour faire partie d'un panel français? Même si je me soigne en regardant Top Chef et les cols bleu blanc rouge des meilleurs ouvriers de France qui cuisinent sur M6. Alors, un peu comme une suite à cette aventure sur le microbiote, j'ai eu envie de plonger dans notre patrimoine culinaire et nos mythes nationaux. Et j'ai donc essayé de manger des plats traditionnels que je n'avais jamais goûté avant.
Là, il faut dire que je viens de manger pour la première fois de ma vie. Enfin, je cherchais un autre mot que couille, mais
sur la carte.
Oignon blanc. Ouais, non, sur la carte, c'est écrit couille. Moi, j'aime bien que les gens sachent, bah, que les gens commandent une assiette en âme et conscience. Oignon blanc, c'est une couille. Rognon, c'est un rein. Voilà, il n'y a pas de mystère.
C'est de la couille.
Voilà, tout simplement.
Dans notre pays qui a inventé le restaurant, la conserve, le bouillon cube ou les fiches cuisine, j'ai cherché un lieu qui pourrait convoquer la mémoire de ce que pouvaient acheter mes arrière-arrière-grand-mères qui cuisinaient à Paris et qui mangeaient des abats. J'ai atterri dans le ventre de Paris, au Hall, là où pour Zola, l'opposition entre les maigres et les gras racontait déjà une époque.
Bien, j'attends le silence des bouches et des corps.
École de l'arbre sec, dans le quartier des Halles, classe de CM1 de Madame Mandy Payoste.
Je vais demander à Gabrielle d'éteindre les lumières. Non, sans bouger. Je voulais qu'on regarde des petites images. D'abord, on va regarder celle-là. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit, Maxence ? Là, ce sont les Halles, en effet. Et donc, les Halles, notre quartier, c'est là où on est, c'est notre école. Hein. Elle est juste à côté des Halles. Vous me comparez les deux images ? Allez, Dylan, vas-y.
Donc, dans l'ancien temps, c'était un grand marché. Et maintenant, c'est devenu un gros centre commercial avec pas que des magasins où tu peux acheter de la nourriture. Tu peux acheter aussi des habits. Il y a aussi une piscine, un cinéma... On peut y passer presque toute la journée, quoi.
Ok. Donc, en effet, les Halles étaient le plus grand marché de Paris. Et est-ce que vous saviez comment on appelait ça, ce quartier, avant ? On appelait ça le ventre de Paris. Pourquoi, d'après vous, ça s'appelait le ventre de Paris ?
Parce que c'était au milieu de Paris ? Parce que c'est là où on stocke toutes les alimentations ?
Mm-hmm.
Comme dans le corps humain. Genre, souvent, c'est grand. Oui, c'est grand, les Halles, mais c'est plutôt... Il y a plusieurs étages et c'est plutôt un labyrinthe souterrain. Genre, si je connaissais pas, moi, je peux très bien m'y perdre hein, dedans.
C'est genre, vrai que les Halles, c'est un peu un labyrinthe souterrain. C'est un labyrinthe, donc il y a plein de chemins, un peu comme dans notre ventre.
C'était une mer. Elle s'étendait de la pointe Saint-Eustache à la rue des Halles, entre les deux groupes de pavillons. Le jour se levait lentement, d'un gris très doux. Et à mesure que l'incendie du matin montait en jet de flammes au fond de la rue Rambuteau, les légumes s'éveillaient davantage. Les paquets d'épinards, les paquets d'oseilles, les bouquets d'artichauts, les entassements de haricots et de pois, les empilements de romaine liés d'un brin de paille chantaient toute la gamme du vert, de la laque verte des cosses au gros vert des feuilles. Claude battait des mains à ce spectacle. Il trouvait ces gredins de légumes extravagants, fous, sublimes. Et il soutenait qu'ils n'étaient pas morts, qu'arrachés de la veille, ils attendaient le soleil du lendemain pour lui dire adieu sur le pavé des Halles. Il les voyait vivre, ouvrir leurs feuilles comme s'ils eussent encore les pieds tranquilles et chauds dans le fumier. Il disait entendre là le râle de tous les potagers de la banlieue.
Le ventre de Paris, Émile Zola, 1869.
Alors, Gilles Fumet, vous êtes géographe de l'alimentation. On fait avec vous une petite promenade sur les traces de l'histoire de l'alimentation et de la gastronomie ici à Paris, qui est quand même... une capitale gastronomique pour le monde, mais aussi pour la France. On est ici, au cœur des Halles, juste devant l'église Saint-Eustache. Les 12 coups de midi viennent de sonner. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez en tant que géographe, ici, en 2024 ?
Alors, on est quand même dans un endroit qui est particulièrement visité, mais avec des strates. C'est-à-dire que vous avez des gens qui habitent en surface... Vous avez les centres commerciaux qui sont R-1 et puis vous avez les RER qui sont R-2.
Hein, donc, en sous-sol.
Voilà.
Sous et nos donc, pieds.
Voilà, sous nos pieds. Et le RER est un outil de jonction entre le centre et les banlieues. qui fait fortement l'effet d'une pompe aspirante, hein, parce qu'il se croise ici, je ne sais pas, à la louche, 5 à 700 000 personnes par jour. Hein.
Une personne devant nous, par exemple, a un sac avec des sandwichs qui viennent d'une boutique. Son ami a une autre proposition alimentaire. Juste à côté, il y a quelqu'un qui sort de sachets plastiques des sandwichs enroulés dans une sorte de pâte, ouais, probablement mexicaine. Juste derrière, on peut voir un groupe de jeunes filles qui mangent des salades dans, ouais, une barquette plastique. Ouais. Et la table a complètement disparu du repas du midi. Alors, ici, en tout cas, au Halles, on voit qu'il y a personne ne mange à table. On mange sur ses genoux, en fait.
On mange beaucoup sur nos genoux. Mais c'est vrai que, d'une part, le mode de vie, et d'autre part, l'industrialisation de l'alimentation avec l'emballage est en train de dynamiter une grande partie des restaurants. Oui, parce que, vous voyez, ben, ces gens-là, il y a 10 ans, ils allaient au fast-food encore.
Et aujourd'hui ?
Ah ben, ils mangent sur un banc, sur un bout de pierre, au soleil... D'ailleurs, les trois quarts des déchets qui encombrent les rues aujourd'hui, c'est des déchets alimentaires.
Il pleure, il se lamente, il digère les passantes, il te joue du pipeau, mais t'offre le caniveau. À qui l'en fait du bruit, le ventre de Paris, elle en fait du ramdam. La panse de Paname, pourquoi on trouve si beau le bide de Barigot? Mais qu'est-ce qui fait qu'on l'aime, la brioche parisienne?
Oui, il y a la Bourse du Commerce qui est juste à côté, donc ça c'est un établissement qui a sa place, hein, au Halles justement. Et dans lequel on évaluait le prix du grain, surtout.
Le prix des céréales, donc, qui était un des piliers de l'alimentation française, quand même.
Ah oui, à cause du pain. Parce que le Français mange d'abord du pain pour se tenir le ventre, comme l'Asiatique mange du riz et l'Américain du blé, du maïs. Oui, une des raisons pour lesquelles les Français sont des gros consommateurs de pain, mais pas le même pain que les pains en Allemagne en Angleterre, où la forme de toast rappelle le tranchoir médiéval. Hein. Les Français mangent du pain en boule, hein, fait par les boulangers, parce qu'ils ont une cuisine de sauce, et que le pain permet d'attraper la sauce et de manger. C'est pour ça qu'on voit des Français encore... Je vais dire un terme un peu vulgaire, torcher leurs assiettes. Les plus gênés mettant le morceau de pain au bout d'une fourchette, mais tenant à soit garder l'assiette propre, soit aspirer tous ces jus de rôti, de viande, qui sont excellents pour la santé, dont on sait qu'ils sont très nourrissants.
Et pourquoi, à votre avis, Christophe Lavelle, la gastronomie a été en quelque sorte inventée en France?
Christophe Lavelle,
pourquoi est-ce que c'est si français?
Spécialiste de l'alimentation.
Pourquoi est-ce que ça naît ici?
Au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Ça naît ici, on va paraître un tout petit peu chauvin en disant ça, parce que si on se promène un peu en Asie, ils vont dire, nous, bien avant Boyasavarin et Carême, on a des auteurs qui ont écrit des traités de cuisine pour 500 ans de plus. Donc, faut prendre un tout petit peu de recul à la fois historique et géographique par rapport à ça. Ceci étant, la France reste un pays de référence. Alors, à quoi c'est dû? À plusieurs facteurs. Un facteur déjà environnemental, au sens on bénéficie d'un climat extrêmement varié, avec des zones de production et des produits régionaux, une profusion, on va dire, de ressources alimentaires, de variétés, à la fois en termes maraîchères et de production animale. Donc, le patrimoine de la cuisine française s'est construit sur une profusion absolue de produits de la mer, parce qu'on a des plus vastes littorales au monde, d'autant plus si on rajoute les territoires d'outre-mer, évidemment. On a un élevage, effectivement, qui est célébrissime, avec des variétés de bœuf et de moutons et de volailles qui sont enviés partout dans le monde, et puis une production de vin, bien sûr, célébrissime. Et donc tous ces produits ont servi de marchepied aussi. Et puis petit à petit, il y a une sophistication qui s'est mise en place, évidemment dans certaines parties de la société. C'est une cuisine qui est beaucoup plus une cuisine d'apparat, une cuisine extrêmement complexe, servie dans les grandes tables, et qui, elle, a marqué l'histoire justement par sa sophistication. Dans une pâtisserie, on peut facilement avoir 5, 6, 7 textures différentes. On va avoir la pâte à choux, le croustillant, le caramel, la crème pâtissière ou la crème chibouste, la décoration, le glaçage, etc. Et qui continue d'être un peu la marque de fabrique de la France à travers le monde.
On est ici d'ailleurs, Christophe Lavelle, juste à côté de rues qui ont inventé les pâtisseries les plus célèbres de France, le Saint-Honoré. Il y a la pâtisserie Storer qui est juste à côté. Enfin, en tout cas, historiquement, la pâtisserie s'est quand même créée ici.
Il faut reconnaître que les Halles étaient, il n'y a pas si longtemps que ça encore, le ventre de Paris. Donc vous pouvez venir chercher le meilleur du meilleur qui était produit dans le bassin parisien et au-delà, avec tous les produits bruts qui me permettaient de construire cette cuisine dont on vient de parler. Et le paradoxe de l'histoire, c'est quand même aujourd'hui que c'est sans doute le pire endroit de Paris. Les Halles elles-mêmes, hein, la Halle des Halles, c'est le temple de la malbouffe aujourd'hui. Donc il faut quand même reconnaître que le succès de toutes ces chaînes à restauration rapide vient du fait qu'elles répondent à un plaisir physiologique immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'avale un cornet de frites et un burger, ou une pizza, ou des donuts ou autre, c'est qu'on est sur des alimentations qui répondent à un besoin physiologique immédiat et qui génère un plaisir immédiat. C'est-à-dire que c'est une espèce de retournement de l'histoire.
Attention, on voit un rat qui vient de passer.
Ah oui, ce qui fait partie de l'imaginaire de la gastronomie grâce au film Ratatouille, quand même. C'est pas rien. En fait, un rat évoque la gastronomie aujourd'hui grâce à Disney. C'est quand même génial. Bon, après, j'ai peut-être l'esprit un peu déformé. Mais
Non, mais en même temps, c'est un personnage typiquement parisien, le rat.
Oui, exactement. Donc, c'est un omnivore, comme nous. Parce qu'il a ce même réflexe que nous, c'est-à-dire de fureter un peu dans son environnement, voir ce qu'il y a à manger. C'est plutôt un bon comportement. Une alimentation variée, c'est important. C'est pour ça que les rats prolifèrent aussi bien. Où qu'ils aillent, ils savent qu'ils trouveront ce qu'il leur faut à manger. Comme les humains.
J'en ai jamais mangé, du coup j'ai hâte de goûter.
Moi c'est un rond avec dedans de la confiture, mais je sais pas de quoi.
Ah mais c'est du glaçage. Et c'est glissant aussi. On dirait comme s'il y avait du miel. Ah, c'est tout doux.
C'est rond, il y a un trou dedans. C'est assez rigolo. Si vous en mettez deux ensemble, ça fait des lunettes, un 8.
C'est des sortes de petits bâtons de toutes les couleurs différentes, sucrées. Ah oui, des vermicelles.
Moi, j'aime bien parce que c'est pas trop chocolaté ou... trop sucré, moelleux, et puis vraiment délicieux.
Oui, c'est normal que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que le donut, il va répondre à des critères physico-chimiques qui vont tout de suite parler à notre cerveau. Donc là, ça va déclencher un message de récompense immédiat dans mon cerveau, parce que qui dit gras et sucre dit énergie.
Donc vous reprenez une bouchée?
Donc je reprends une bouchée parce que je sens que j'ai besoin de cette énergie. Et en même temps, il y a ce petit glaçage qui rajoute une couche de sucre, mais qui en même temps apporte un peu de texture. Alors il n'est pas croustillant, mais on sent qu'il y a le glaçage, on le sent sous la dent. C'est-à-dire que ça rajoute une complexité supplémentaire à la simple pâte de beignet.
Là, en termes de transparence, on ne peut pas faire mieux. Pour un peu qu'il y ait quelques dizaines de mètres de queue le samedi, vous voyez votre donut, c'est le temps que vous le voyez être fabriqué, il n'y a plus qu'à le déguster.
Alexandre Mézouet, directeur général de Krispy Kreme.
On est au cœur de Paris, sous la canopée à Châtelet-les-Halles. Dès que vous poussez la porte, en fait, vous avez cette chaîne de fabrication qui est devant les clients, juste derrière les baies vitrées. Et vraiment, on voulait ce côté expérientiel avec le fameux Hotnao quand on fabrique. Le, le hot now, chaud maintenant, et donc l'enseigne lumineuse change de couleur. Il y a tout un storytelling autour de ça, au moment de la fabrication, et donc les gens savent qu'ils peuvent venir déguster un donuts original glace tout chaud. Dans ce monde de brut, j'ai presque envie de dire épais, c'est ce petit plaisir vraiment très personnel. Je mange ça sur la route entre deux rendez-vous, c'est que du pur plaisir régressif. Là, les fameux Kidult, là, on revient dans l'enfance avec du sucre.
Comment Kidult ?
Kidult. Entre enfant et adulte, donc le fameux kid et l'adulte, donc la contraction des kidults.
Est-ce que vous savez ce qu'il y avait ici avant ?
Oui, ici avant, il y avait une belle brasserie d'Alain Ducasse. Donc du coup, c'est assez paradoxal, mais je pense que ça rejoint bien aujourd'hui le changement de tendance ou les évolutions culinaires. On passe d'une magnifique brasserie d'Alain Ducasse à un produit américain par essence. Tout le monde m'a expliqué que le donut, ça ne marcherait pas en France. Oui, puisqu'au pays du croissant au beurre, de la chouquette et du macaron, qu'est-ce qu'on venait faire là avec notre produit régressif, sucré, très américain ? Il se vend 2 milliards de croissants en France tous les ans. On vient très, très, très modestement prendre nos petites parts d'estomac. Moi, je vois une formidable opportunité et on est très heureux d'être là en tous les cas. Et Alain Ducasse continue de rester à côté de nous avec son atelier là de chocolat. Donc, on est côte à côte toujours.
Ici, nous sommes Alexandre dans le ventre de Paris. Vous connaissez ce livre ou pas ?
Oui, oui, tout à fait. Pour le coup, au Hall, on peut difficilement faire mieux. Les références françaises et très parisiennes. Deux, trois petites bricoles ont dû changer quand même.
Alors, je vais prendre un nature, un chocolat, un rose.
Je sais pas, vous voulez comme ça, madame ?
Non, avec les...
Vous faites...
On va mettre un sprinkles.
C'est super bon, ces donuts. Deux original glaze, s'il vous plaît. Non, mais trois. Trois, je pense, trois en fait au final. Et un hazel. Ouais. Merci.
Ah. Alors, une petite lecture.
D'accord. Vous voulez que je lise jusqu'à où ?
Jusqu'à carotte.
Ok. La faim s'était réveillée, intolérable, atroce. Ses membres dormaient. Il ne sentait en lui que son estomac, tordu, tenaillé comme par un fer rouge. L'odeur fraîche des légumes dans laquelle il était enfoncé. Cette senteur pénétrante des carottes, le troublait jusqu'à l'évanouissement. Il appuyait de toutes ses forces sa poitrine contre ce lit profond de nourriture, pour se serrer l'estomac, pour l'empêcher de crier. Et derrière, les 9 autres tombereaux, avec leurs montagnes de choux, leurs montagnes de pois, leur entassement d'artichauts, de salades, de céleri, de poireaux, semblaient rouler lentement sur lui et vouloir l'ensevelir. Dans l'agonie de sa faim, sous un éboulement de mangeaille. Le ventre de Paris de Émile Zola. Ça m'évoque la faim d'un personnage qui semble avoir un appétit qui pourrait le mener à l'agonie si on ne le comble pas. Ouais, c'est ce que je ressens quand je lis ça. Voilà. J'ai souvent faim et je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas-là.
Est-ce que vous savez que la scène se passerait ici, dans
Châtelet-Léal ? Mais c'est vrai qu'en venant à Châtelet, on cherche un petit peu le dépaysement des quartiers où l'on séjourne. Donc en fait, je viens un peu m'aérer, m'ouvrir un peu mon esprit. Et comment ouvrir son esprit sans ouvrir son appétit, j'ai envie de dire. Donc, et je pense que c'est important d'avoir des livres comme ça qui peuvent vous faire avoir envie de sortir de chez soi et en fait tout simplement de vagabonder dans Paris, quoi.
Alors Pascal Horry, comme Paris se transforme et qu'il y a toujours des travaux, je vous propose qu'on avance un tout petit peu vers les jardins du Palais Royal, qui sont donc le
bien site. Volontiers. C'est d'ailleurs tout à fait astucieux. C'était plein de restaurants ici, de cafés et de salles de jeu et de premier étage pour d'autres activités.
De prostitution.
De prostitution, entre autres. Enfin, chic, bon, bien sûr, parce que tout est chic ici.
Pascal Horry, historien et membre de l'Académie française.
On est quand même dans un des plus vieux, certains diront des plus beaux décors de restaurants de France, voire du monde. Nous sommes au Palais Royal, dans un endroit stratégique, devant l'entrée du restaurant Le Grand Véfour. English and American Bar, salle de société, restaurant-brasserie, c'est une manière de rendre hommage aux différentes enseignes qui se sont succédées ici depuis la fin du XVIIIe siècle, excusez du peu. Aujourd'hui, ça reste un grand restaurant, c'est-à-dire un restaurant repéré par les guides, étoilé, tout ce qu'on veut, mais on est là dans un décor qui remonte presque jusqu'à l'origine des restaurants. C'est que le restaurant est né dans ce quartier, autour du Palais Royal, et que le restaurant, ça se distingue peu à peu de l'auberge, de l'hôtellerie et surtout du café. Ce que les contemporains ont du mal à comprendre, du mal à l'expliquer, parce qu'on peut vous dire, mais il y a toujours eu des restaurants dans l'histoire. C'est faux. Les restaurants apparaissent à Paris, pas à Londres, pas à Saint-Pétersbourg, pas à Berlin, à Paris, à la fin de la monarchie, sous un peu Louis XV, surtout Louis XVI, sous la Révolution a fortiori. Et c'est une innovation extraordinaire, et seulement à cette époque-là. Ah oui, la Révolution française, elle naît dans les jardins du Palais Royal, en juillet 1789. Ça y est, le pouvoir est en train de se déplacer vers Paris. Ça va être complet en octobre 89, mais on sent bien qu'il y a un mouvement qui consiste à dire, mais les journalistes, les leaders d'opinion, dirait-on aujourd'hui, ils sont maintenant à Paris. Donc le monde est en train de, franchement, de basculer. Et Camille Desmoulins et quelques autres se retrouvent ici parce que c'est un lieu très fréquenté, un lieu de loisirs qu'ils apprécient d'ailleurs de leur côté, mais aussi c'est un lieu de propagande. Et le grand tambour sur lequel on tape pour que la rumeur devienne une vérité et où la révolte devienne une révolution. Voilà.
Bah, aujourd'hui, c'est devenu propre et net, il n'y a plus rien. C'est dommage. Bah, vous voyez, c'est un endroit qu'on traverse. Je sais pas, c'est comme une vitrine, quoi. Le jardin du Palais Royal, c'est rude.
Alors,
mais de toute façon, ça vaut la peine.
Alors, bon, on y va.
Oh, bah surtout. Bon, alors j'y vais.
Vous voulez le lien d'abord, dans votre tête?
Non, je pense pas. Madame de Marelle s'écria : Donnez à ces messieurs ce qu'ils voudront. Quant à nous, du champagne frappé, du meilleur. Du champagne doux, par exemple, rien autre chose. Elle annonça avec un rire excité. Je veux me pocharder ce soir. Nous allons faire une noce, une vraie noce. Les huîtres d'Ostende furent apportées, mignonnes et grasses, semblables à de petites oreilles enfermées en des coquilles et fondant entre le palais et la langue, ainsi que des bonbons salés. Puis, après le potage, on servit une truite rose, comme de la chair de jeune fille. Et les convives commencèrent à causer. Et comme la première entrée n'arrivait pas, ils buvaient de temps en temps une gorgée de champagne en grignotant des croûtes arrachées sur le dos des petits pains ronds. Et la pensée de l'amour, lente et envahissante, entrait en eux, enivrait peu à peu leur âme, comme le vin clair, tombaient goutte à goutte en leur gorge, échauffaient leur sang et troublaient leur esprit. On apporta des côtelettes d'agneau, tendres, légères, couchées sur un lit épais et menues de pointes d'asperges. Bigre, la bonne chose, s'écria Forestier. Et ils mangeaient avec lenteur, savourant la viande fine et le légume onctueux comme une crème. Et la causerie, descendant des théories élevées sur la tendresse, entra dans le jardin fleuri des polissonneries distinguées. Ce fut le moment des sous-entendus adroits, des voiles levées par des mots, comme on lève des jupes. C'est un très beau texte. C'est magnifique. Il y a tout.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les restaurants naissent dans ce quartier? Qu'est-ce qu'il y avait avant les restaurants et pourquoi on utilise ce mot de restaurant? Qu'est-ce qu'on vient restaurer?
Avant les restaurants, formule qui se stabilise peu à peu entre 1750 et 1780, il y a des traiteurs auprès desquels on peut se fournir en plats cuisinés, qui éventuellement vous accueillent chez eux, mais souvent n'en ont pas la possibilité parce que tout est très réglementé sous l'Ancien Régime.
C'est-à-dire que n'importe qui ne pouvait pas faire un jambon ou un boudin.
Voilà. Et vous avez des novateurs qui vont proposer un pas de côté considérable, des gens comme Turgot et compagnie, qui veulent établir une forme de liberté du commerce. À la limite, une des grandes conséquences de la Révolution française, c'est pas vraiment la déclaration des droits de l'homme, non, c'est la réalité de la libération du commerce. Alors ça c'est du concret. Et en tous les cas, vous avez ces gens qui mettent en avant un mot moderne, le restaurant, qui est d'ailleurs au départ plutôt ce que l'on sert dans ces lieux-là, un bouillon qui va vous restaurer la santé, donc c'est le siècle des Lumières, hein. C'est-à-dire que notre conception du corps change. C'est très 21e siècle. Grâce à l'alimentation, on peut se guérir, améliorer sa condition physique, etc. Et le restaurant va être un mot à la mode. Le modèle est évidemment parisien. Il est même mondial parce que les étrangers ouvrent de grands yeux et vont éventuellement repartir vers leur pays en se disant « Tiens, on pourrait faire la même chose chez nous ». Et en quoi est-ce que c'est une innovation, le restaurant ? C'est que on vous offre d'abord un décor de grande maison. Ce que j'appelle grande maison, c'est un hôtel particulier. Le XVIIIe siècle, c'est l'invention de l'hôtel particulier. Un décor de grande maison. Un service de grande maison. Une cuisine de grande maison. Une cave de grande maison. Mais vous n'êtes pas dans une grande maison. Parce que vous n'êtes pas invité par quelqu'un. Vous n'êtes pas invité par votre cousine, votre arrière-cousine, la duchesse d'E. Vous avez tout ça en échange de quoi ? En échange d'argent. Donc je viens de vous définir le monde moderne.
Quelqu'un peut-il me lire le sujet, s'il vous plaît, de ce matin ? Vas-y, Martin.
Tu ouvres un restaurant dans le quartier des Halles. Qui mange-t-on ? Comment ?
Alors, quelqu'un veut-il nous lire ce qu'il a écrit ?
Vas-y. Mon restaurant s'appelle Les Couleurs au hasard. Au début, on te donne un panier où il y a plein de petits papiers et tu pioches. Et si t'as rose, on te sert que des plats roses. Dans ce restaurant, on mange sur des balançoires. Et pour patienter, il y a des trampolines.
Dans mon restaurant, on mangerait dans un jacuzzi. On emmène le repas par des trains. Il y aurait un coin jeu vidéo. Et ça s'appelle le Luxofood.
J'ouvre un restaurant qui s'appelle Chopuan. On y mange des plats déjà mangés et on mange sur une poubelle non confortable. Les repas sont de couleur grise et les fourchettes, on les met dans une chaussette puante.
Merci.
Pascal Horry, au Palais Royal, on est à quelques centaines de mètres des Halles. Donc les restaurants peuvent aussi facilement s'approvisionner. Est-ce qu'il y a un lien entre les Halles et le Palais Royal ?
C'est incontestablement le ventre de Paris qui se renforce avec le centralisme parisien, avec le développement d'un capitalisme alimentaire qui gère au niveau parisien les circulations de produits comestibles à l'échelle pas simplement de la France, mais parfois de la planète. Parce qu'il faut bien insister sur le fait que cette cuisine française qui se hausse du col est une cuisine qui, parce qu'elle est devenue impérieuse, impériale, hégémonique, est extrêmement ouverte à l'étranger. Ce qu'on pourrait dire, les Français, ils se retournent sur eux-mêmes. Bien sûr que non. Premièrement, c'est à Paris qu'arrivent les restaurateurs de province qui ont eu de l'ambition, les productions de province qui font que c'est dans ce quartier, à quelques pas d'ici, que s'ouvre à la veille de la Révolution française, un restaurant qui s'appelle les Frères Provençaux, trois frères d'origine provençale, qui ouvrent un restaurant où on produit, devant les yeux ébahis parfois et inquiets des clients de Paris, des recettes qui viennent du Midi. Donc l'idée qu'il y a une cuisine régionale, attention, c'est une invention parisienne. Complètement. Hein. D'autre part, la France du 19e siècle, c'est la France de la colonisation. Et donc vous voyez apparaître, dès l'époque de la monarchie de Juillet, général Bugeaud, etc., le couscoussou des Berbères. Hein, les critiques gastronomiques Français parlent du couscoussou des Berbères, qui est une nouveauté. Il faut aller manger le couscoussou des Berbères. Et puis, au début du XXe siècle, vous avez par exemple toute une colonie chinoise qui s'installe du côté de la gare de Lyon, etc. Donc, c'est à Paris que s'inventent les cuisines ethniques. Voilà. Bien entendu, il y a des traditions locales. Mais pour qu'elles soient légitimes, pour qu'on en parle, pour qu'on ouvre des restaurants, il faut Paris. Quand vous êtes hégémonique, vous êtes impérialiste, vous êtes impérial. Voilà.
Ce sont les migrations vers Paris qui ont apporté les produits régionaux.
Gilles Fumet.
L'invention du tiers-État, en quelque sorte, a permis...
Géographe de l'alimentation.
Des députés du tiers-État, là, qui ont peuplé l'Assemblée nationale à partir de 1792, a permis de faire converger à Paris toute une génération de nouveaux hommes politiques qui vont progressivement apporter avec eux leurs symboles régionaux. Voilà.
Et c'est l'Assemblée nationale, finalement, qui va déterminer l'importation de produits régionaux.
Oui, c'est vrai que dans l'histoire de la cuisine parisienne, la variabilité des plaques s'est considérablement développée au XIXe siècle et est largement liée au fait que les députés font la promotion de leur terroir.
En fait, il faut que je m'imprenne bien du texte. Moi, j'aime bien lire et me donner l'objectif de finir une page pour après manger le donut, en fait. C'est ce que je fais. Donc, je lis un certain nombre de pages et à la fin, j'ai cette récompense de nourriture.
On est prêt pour le lire. Alors, le prochain donut à la fin de la page.
Voilà. Cadine rendait particulièrement visite à certains magasins qu'elle aimait. Elle avait surtout une vive tendresse pour la boulangerie. Elle suivait la rue Torbigo, revenait 10 fois pour passer devant les gâteaux aux amandes, les Saint-Honoré, les Savarins, les flans, les tartes aux fruits, les assiettes de baba, d'éclairs, de choux à la crème. Et elle était encore attendrie par les bocaux pleins de gâteaux secs, de macarons et de madeleines. Et elle restait là, rêvant, se disant qu'il faudrait bien qu'elle finisse par en manger un jour. Qu'elle finisse, enfin c'est écrit fini, mais je pense que c'est un temps du passé.
Ryan, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce texte? Est-ce qu'avant de rentrer ici, vous êtes un peu comme le personnage de Codine, à imaginer le goût de la brioche, imaginer le goût du donut? Est-ce qu'il y a un parallèle?
Je m'en trouve beaucoup dans ce texte-là, lorsqu'il parle de macarons, de tout ce qui fait en réalité la beauté des sucreries et des gâteaux qu'on peut trouver en boulangerie, en fait. Voilà.
Et pourtant, vous n'êtes pas allé à la boulangerie aujourd'hui, vous êtes venu ici.
Ouais, je suis venu à Krispy Kreme parce que en boulangerie, on a des plaisirs qu'on peut manger un peu tous les jours. Mais lorsque je viens ici, c'est assez rare. Mais je sais que j'en ai pour ma faim. Je sais qu'on est quand même en France, mais en entrant dans la boutique, on voyage un petit peu. Et c'est qu'en ressortant qu'on revient à Paris, dans le beau Châtelet Léal en réalité.
Donc pour vous, Ryan, croissant ou donut?
Je dirais que ma jeunesse me dirait donut, mais que dans 10 ans, je répondrais croissant, je pense. C'est un truc de vieux, mais qui est quand même très bon. Et il y a aussi le cronut qui vient d'émerger un petit peu en France, donc si je dois faire un choix, autant lier les deux, en fait. La pâte, c'est plus feuilleté comme un croissant, mais l'intérieur est plus moelleux comme un donut. Donc en fait, ça lie un peu peut-être les deux atouts, en fait, premiers du croissant et du donut, hein, qui sont le croustillant du croissant et l'onctuosité, on va dire, la tendresse du donut.
En fait, vous, votre génération, vous voulez tout, quoi. Vous voulez le passé, le présent, la France et l'Amérique.
On n'aime pas faire de choix. Donc en fait, on préfère... voilà. Donc oui, on a envie de tout faire, de s'inspirer de l'ancienne génération tout en construisant une nouvelle génération et tout découvrir.
Aujourd'hui, il y a Instagram, etc. Aujourd'hui, il y a l'idée que la cuisine, c'est un art plastique. Que ça se montre, donc... évidemment, vous photographiez vos plats, vous envoyez ça à vos amis. Donc, sur ce plan-là, ce sont les bases du XVIIIe siècle, mais adaptées à la technologie de la communication d'aujourd'hui.
Pascal Horry, historien et membre de l'Académie française.
On a inventé donc en France le chef artiste.
Il est auteur du discours gastronomique français.
Ça, c'est capital. Le chef qui n'arrête pas de dire, c'est le cas d'Antonin Carême, qu'il est dans l'ordre des arts parce que Antonin Carême, qui exerce ses talents dans les années 1810-1830, pour simplifier, est un pâtissier de formation. Alors on va se dire, mais quel rapport? Ben si, le rapport pour lui saute aux yeux, c'est-à-dire qu'un pâtissier, c'est entre autres un sculpteur, voire un architecte, de pièces montées, de pastillages, etc., qui, pâtissier, dans le quartier où nous sommes, à deux pas d'ici, on se lève et le dit, on va se retrouver là où le grand Carême a été formé comme pâtissier. Et donc Carême, grosso modo, il est illettré. Hein.
Donc il se forme sur le tas, quoi.
Il se forme sur le tas, mais pas n'importe quel tas. C'est-à-dire qu'il obtient de son patron de quitter son service pendant une journée, une demi-journée, c'est énorme, pour se cultiver, s'éduquer à la bibliothèque impériale, en particulier en matière de décor, en matière de sculpture. Et c'est lui qui va inventer la toque, qui n'est pas la toque définitive, un siècle plus tard à peu près, avec Escoffier. Donc il invente quand même l'idée de toque.
L'idée d'être repéré.
Et il le raconte lui-même. Il dit qu'il se présente un jour à son maître, à qui il doit présenter le menu du jour, hein, ça c'est la règle. Que le maître peut commenter, corriger, refuser, etc. Mais il arrive coiffé autrement. Jusque-là, un cuisinier était coiffé comme meunier Tudor dans la vieille chanson, c'est-à-dire un bonnet qui brinque-ballait sur le côté. Et l'orgueil esthétique de Carême ne supporte pas ça, et il arrive avec quelque chose. Lui qui s'est nourri à la bibliothèque impériale des dessins de l'Antiquité, des colonnes corinthiennes, ça, avec quelque chose qui esquisse une colonne corinthienne. Ce n'est pas encore la grande toque d'Escoffier, mais c'est déjà le mouvement de la toque. Et il explique à son maître que oui, il trouve que quand même, la noblesse de son métier exige
une autre couronnée.
Voilà, de couronner. Et le maître dit, intéressant. Donc c'est quand même très cohérent, ce n'est pas du tout grotesque. Ça veut dire, mais moi je suis un artiste, comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Sauf que là, maintenant, c'est le chef.
Ah, du safran de l'Aquila. Hein, Gusto dit que c'est le meilleur.
Tout ce qui compte, c'est la cuisine. Tout ce qui compte,
c'est Gusto. Émile, regarde.
La grande cuisine n'est pas faite pour les timorés. Il faut avoir de l'imagination, de l'audace. Il faut prendre le risque de commettre des erreurs. Et personne n'a le droit de vous imposer des limites, quelles que soient vos origines, d'où que vous veniez. Votre seule limite, c'est votre âme. C'est la vérité. Tout le monde peut cuisiner. Mais le véritable génie n'appartient qu'aux audacieux.
C'est de la pure poésie.
Malheureusement, cela ne devait pas durer. Le restaurant Gusto allait perdre l'une de ses 5 étoiles à la suite d'une chronique assassine du célèbre critique gastronomique Anton Ego. Ce fut un coup terrible pour Gusto. Le cœur brisé, il devait décéder peu de temps après, ce qui, conformément à la tradition, entraîna pour le restaurant la perte d'une autre étoile.
Gusto est mort.
La restauration dite publique, elle va concerner uniquement les élites, ou est-ce que les classes un petit peu plus populaires ont la possibilité de manger, de se restaurer, sans faire la cuisine eux-mêmes?
Au fond, il y a deux types de cuisine. Et si on remonte au Moyen-Âge, c'est déjà ça. Et au moment où on invente le restaurant, c'est bien sûr déjà ça. Il y a la cuisine publique et la cuisine privée. La cuisine privée, on l'a fait dans l'ambiance familiale au sens large, c'est peut-être une famille élargie, etc. C'est une cuisine tenue par les femmes. Je simplifie, mais c'est ça. Et ça va rester le cas presque jusqu'à aujourd'hui. On sent bien que ça bouge, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, vous avez la cuisine privée et vous avez la cuisine publique qui est celle qu'on propose à partir des restaurants et qui est une cuisine d'hommes. C'est une cuisine destinée aux élites. Avec les restaurants, apparaît, mais progressivement, l'idée qu'il y a une carte dans laquelle on peut choisir. C'est lié aussi au développement de l'écriture, de l'imprimerie. Hein. Le constat aussi simple. On est capable de lire, surtout dans les élites, et on lit qu'il y a telle viande en sauce et qu'on la propose à tel prix. Donc, mais surtout, la grande invention qui est liée au restaurant, c'est celle de la critique gastronomique.
Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. En quelques jours, plus d'un million d'exemplaires d'un même livre sont sortis des presses. Il ne s'agit pas du dernier roman d'un auteur à succès, mais plus précisément d'un guide, le fameux guide du chemin. Des milliers d'exemplaires sont expédiés dans le monde entier à l'attention des futurs touristes qui n'imaginent pas visiter la France sans cette sorte de Bible qui leur permettra, les yeux fermés, d'échanger leurs dollars, leurs livres sterling, leurs escudos, leurs roubles ou toute autre devise contre quelques fines spécialités de la gastronomie française.
Donc la gastronomie française ne serait rien sans le discours autour de la gastronomie française, et voire même les guides qui vont récompenser et même hiérarchiser, classifier les restaurants.
Soyons clairs, la gastronomie, ce n'est pas la haute cuisine. La gastronomie, c'est la culture, certains diront la science, du manger et du boire. C'est ça que ça veut dire. Donc, restaurant gastronomique, c'est une formule facile, mais ça n'a aucun sens. La gastronomie, c'est une affaire de culture. Ça se voit bien avec Grimaud de la Reynière, avec Bria Savarin, avec tant d'autres, qui sont très conscients de ça, que c'est une affaire de culture. Parfois aussi d'argent, mais les deux vont souvent de pair. Hein. Grimaud de la Reynière, il invente le guide périodique, qu'il appelle l'Almanach des gourmands, qu'il publie pendant un certain temps, on est sous Napoléon, tous les ans. C'est un peu comme s'il y avait un guide Grimaud tous les ans. Bon. Peu à peu, l'idée qu'il y ait des guides s'installe. Et puis, pourquoi est-ce qu'en 1900, pile, en 1900, la maison Michelin, qui fabrique des pneus, veut créer un guide, en effet, gastronomique? Mais c'est qu'il s'agit de s'adresser aux élites. Donc, si vous avez des pneus, c'est que vous avez une automobile, c'est vraiment une affaire d'élite. Hein. Avoir une automobile, bon, ça vous situe dans la hiérarchie sociale. Et d'abord, on va leur proposer des adresses de garage. Donc, les premiers guides Michelin signalent les garagistes. Et de fil en aiguille, il y a une sorte de pression du public qui dit « Oui, mais on va passer la nuit, donc un hôtel, un restaurant. » Et peu à peu, les restaurants deviennent la référence du guide Michelin. Et puis, ce système de la critique va se sophistiquer. Ces guides, cette critique gastronomique, reflète la société de ce temps. Et il y a un moment où on parle de nouvelle cuisine, comme on parle de nouvelle philosophie, on est dans les années 60-70. On ne se contente pas de mettre les pieds sous la table, on a envie d'en parler. Donc on est vraiment dans la littérature, on est vraiment dans l'essai, on est vraiment dans la philosophie, on est vraiment dans le discours, et c'est ça qui donne le meilleur appétit qui soit.
Avec l'automobile, cette fois les halles qui avaient été organisées pour la circulation en train, avec l'automobile, la circulation de Paris devient infernale à la fin des années 60 et au début des années 70.
Géographe de l'alimentation.
On est au début de ce qu'on va appeler l'étalement urbain par l'automobile. Et donc l'idée est de déplacer ces halles vers un autre centre à proximité d'une gare et d'un aéroport, qui sera à Rungis. Et à ce moment-là, on a libéré un terrain très important dans le centre de Paris qu'on va dédier au commerce. Commerce de vêtements, commerce de confort. Voilà, il reste effectivement autour de ce périmètre des restaurants qui témoignent de cette ancienne fonction alimentaire et puis le cochon, le loup-bem, le chien qui fume. Enfin, vous avez des quantités d'allusions à ce qu'a été ce passé, et avec des fonctions qui sont restées, des fonctions de restauration. Voilà. Et puis, donc, quelques rues adjacentes, par exemple, la rue Montmartre, où vous avez toute une série de magasins de matériel de cuisine.
Monsieur le Barois de l'agriculture, Monsieur Jantel des finances, Monsieur Châtelain des Halles. Ah, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon?
Vous me faites confiance comme d'habitude?
Non, ici je ne commande jamais, je préfère la surprise. Sommes à vous, mon
cher. Très bien.
What is this, Ravel the Lapin?
Ah, c'est le dos et le cul du lapin, madame.
Oh, lovely. Pardon, darling.
The pardon. Bring us a coup de lapin pour tout le monde. Alors, 4 pommes.
Bon, ça marche, 4 couverts au 5. 2 hors d'œuvre, 2 terrines, 4 frites au bleu.
Bon, ça va.
2 rables.
Ça va.
2 châteaux saignants. Ah, je réclame les soldes 6.
Voilà.
Patron.
Oui.
Madame le Président.
Ah, finis-moi la béchamel, toi.
Le patron. Bah, je m'appelle Jean-François Piège et on est dans l'un de mes restaurants, la Poule au Pot, rue Vauvilliers, dans le cœur de Paris et ce qui était avant le ventre de Paris, c'est-à-dire les Halles. Et ce restaurant, qui est aujourd'hui depuis 90 ans un restaurant, était à l'origine une boucherie. Ce qui va vous aider à comprendre, c'est que le sol est en biais pour que on écoule les résidus vers les égouts. Et si on... Voilà, je voulais pas le dire, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est pour ça que j'ai des résidus. Et quand j'ai acheté et que j'ai fait le tour de la maison, les caves de cet immeuble, c'est des frigos. où on stockait la viande qui était vendue sur le marché des Halles, qui se trouvait maintenant aujourd'hui à la place du jardin ou de la canopée. Parce qu'on est dans le quartier Louchébem.
Louchébem, ça veut dire boucher en arabe.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'était ici où la viande se vendait, c'était le quartier de la viande.
Si on décrit un petit peu le lieu, il y a donc un papier peint avec des grappes de raisin qui semblent assez anciens, des colonnes dorées et un peu partout des plaquettes qui témoignent de tous les convives qui sont venus s'attabler ici à la Poule au Pot. Juste devant, on peut lire Paul Bocuse, donc un cuisinier, Florent Pagny, un chanteur, Jean-Claude Dreyfus, un acteur, Sigourney Weaver, une actrice américaine, André Cazalet, j'avoue que je ne sais pas qui c'est, Omar Sharif, Ben Abar et Jack Gennewell.
Et si on tourne la tête, y a une particularité, c'est que dans le mur, il y a une fenêtre. C'est là où on vendait le 5e quartier. Donc le 5e quartier, c'est les abats. Donc c'est là où, en argent liquide, on venait acheter sous le manteau son riz de veau, son rognon, son foie de veau. Et la Poule au Pot, c'est un de mes rêves. Je suis amoureux de la cuisine française, je suis amoureux du patrimoine, je suis amoureux de ce qui a fait l'histoire de notre pays et de notre gastronomie.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a un patrimoine à conserver, à sauver d'une certaine manière, et c'est ce que vous avez envie de faire ?
Ah, c'est ce à quoi je m'applique quotidiennement. Et je l'ai fait dans le premier ouvrage que j'ai fait sur le grand livre de la cuisine bourgeoise et populaire, où il y a 1000 recettes de plats français. Donc moi, j'ai envie d'être celui qui transmet, qui fait que ça continue. Et moi, j'ai envie d'être un cuisinier français. La discussion qu'on a, elle peut être borderline, en fait. Dans le sens que je vous parle de passé, je vous parle de nostalgie, mais ça, c'est des sentiments. Moi, je pense que je n'aime pas opposer. Je n'aime pas manger tous les jours de la cuisine française, mais si j'en mange pas, je ne suis pas content.
Ouais.
Parce que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des ambassades, il faut qu'il y ait des endroits qui aient ce pratique. Ici...
C'est une ambassade, ici.
Oui, je pense, oui. La soupe à l'oignon. Pourquoi la soupe à l'oignon, elle est idéale? Quand vous connaissez l'histoire de Paris, bah, c'est la gratine idéale. Vous pouvez demander, Inès, un bol à soupe à tête de lion. Donc déjà, il faut avoir le contenant. Et puis, il y a peut-être l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Les noctambules qui n'avaient plus d'argent. Hein, la cloche des Halles qui sonnait la fin du marché.
Donc juste là, juste derrière.
Juste derrière. Et donc, probablement que ces gens qui venaient donner le coup de main à débarrasser le marché, porter les dernières caisses ou nettoyer, venaient se payer une soupe à l'oignon.
C'était donc ceux qu'on appelait les clochards.
Exactement. Ou les noctambules qui étaient en fin de nuit, avant d'aller travailler, venaient se restaurer avec une soupe à l'oignon. Alors, c'est quoi la soupe à l'oignon? C'est une marmite de bœuf, donc le bouillon d'un consommé, des oignons qu'on a fait suer au beurre, qu'on a déglacé avec du madère. Ça, c'est important.
Gratiné à l'oignon.
Gratiné à l'oignon.
Pour 10 personnes.
Pour 10 personnes.
5 oignons.
5 oignons.
Une branche de thym.
Une branche de thym.
Une feuille de laurier.
Une feuille de laurier.
Deux gousses d'ail.
Deux gousses d'ail.
25 centilitres
de vin blanc.
1,5 litre de consommé de bœuf. 3 centilitres de madère.
30 grammes de parmesan.
30 grammes de parmesan.
100 grammes de comté.
100 grammes de comté.
20 tranches de pain.
Au levain.
Beurre.
Sel.
Sel.
C'est quoi des bonnes têtes de lion?
Et dessus, on va mettre des tranches de pain, nous, qu'on frotte légèrement à l'ail. Et le pain a une importance fondamentale. Ce n'est pas de la baguette, c'est du pain au levain. Et c'est aussi ça l'histoire. Pourquoi on mettait du pain dessus? Parce qu'on passait le pain rassis. Quand on a mis ce pain sur cette soupe à l'oignon, on met le fromage et on la met à cuire au four. Ça boue, ça déborde, mais c'est tellement délicieux. Et ça cuit une dizaine de minutes. Et c'est servi comme ça, et ça fait presque un plat. Je ne vais pas dire que c'est un plat complet, mais c'est un plat qui a du sens. C'est un plat qui est roboratif, qui est gourmand. Et parfois, quand on nous dit « mais moi, j'y suis pas arrivé », ben oui, ça arrive. Mais je peux vous faire une confidence?
Ah oui.
Nous aussi.
Alors justement, Jean-François Piat, je vais vous faire une confidence. Hier, j'ai voulu faire une soupe à l'oignon gratinée des Halles. Mm-hmm. Alors je voulais vous remercier parce que déjà, j'ai récupéré un faitout de ma grand-mère. Parce que je me suis dit, en fait, la cuisine, c'est quand même le pot.
Ouais, le...
Voilà.
Et du coup, je me suis jamais trimballée avec une gratinée dans mon sac à main, mais figurez-vous que je vous ai ramené ma gratinée. Je voulais savoir si vous pouvez juste dire ce que vous en pensez ou pas.
Bah,
c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je trimballe avec une soupe à l'oignon dans mon sac à main. Regardez. Ah, ça a tout ça renversé.
C'est pas grave. C'est chaud en plus.
Ah, ça s'est renversé.
C'est pas grave. Ah.
Ça
mmh. Bah elle est bonne. Bah elle est bonne parce qu'elle est cuisinée. Bon. Ça
oui.
s'est renversé.
Voilà, c'est, le visuel n'est pas terrible.
Ça serait plus une tarte tatin de soupe à l'oignon. La tarte renversée. Mais le goût est très bon. Parce que vous avez pris le temps de cuisiner. Et vous avez mis beaucoup de thym dedans. Je trouve que la plus belle cuisine de ma vie que j'ai mangée, c'est quand je la mangeais, c'est quand je la mange, pardon, je mets tout au passé, mais c'est quand je la mange chez des gens qui ont envie de vous faire plaisir. Une maman qui parle à ses enfants et qui demande qu'est-ce que tu as envie de manger, c'est pour leur faire plaisir. Quand on va manger chez quelqu'un, non, on n'ose pas t'inviter, t'es cuisinier, non. La plus belle cuisine, je l'ai mangée à la maison, c'est ça la cuisine.
C'était le but.
Ben voilà, mais en tous les cas, gagner, c'était... C'est très bon parce que c'est goûteux, parce que ça a cuit et qu'on sent que vous avez passé du temps à le faire.
Voilà, ça veut dire que chacun se réapproprie vos recettes. Et
mais
c'est, quand
mais
même...
c'est ça, moi, dans un des livres, je dis qu'une recette, ce n'est pas une prison, c'est un guide et chacun fait la sienne, en fait.
C'est sympa. Alors, j'ai remplacé un ingrédient, vu que je ne l'avais pas, par ce que j'avais sous la main. Je ne sais pas si...
Non, parce que comme c'est un alcool et qui a cuit très longtemps, qui, lui, s'est évaporé, donc on ne peut pas sentir.
Je remballe. Hein.
Mais c'était très bon. Hein.
Bon, vous êtes sympa. Hein.
Non, c'est vrai.
C'était...
Non, mais là, elle est dans un état qui est compliqué à manger.
Ah oui.
Mais c'est goûteux, en fait.
Non,
moi,
en fait
ce que j'aime dans la cuisine, c'est quand la cuisine est goûteuse et quand on a envie de faire plaisir. Et c'est ça la démarche qui est importante. On n'y arrive pas toujours. Hein. Mais en tous les cas, on y essaie.
Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là.
C'était Manger la France, épisode 1, Le ventre de Paris.
Jusque sous nos fenêtres et c'est
un documentaire d'Élodie Maillot réalisé par David Jacuboviez.
Ne payez pas de mine.
Avec Gilles Fumet, Pascal Horry, Christophe Lavelle, Alexandre Mézoué, Ryan. Jean-François Piège, Lisa Mendy-Payast et les élèves de CM1 de l'école de l'Arbre Sec. Prise de son, Olivia Branger, Nicolas Depagraf, Manon Houssin et Marc Carvenec. Documentation, Anne-Lise Signoret. Mixage, Jason Taous. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurentin. Merci à l'école de l'Arbre Sec, à Yannick May et à son équipe. Vous pouvez retrouver toute cette série sur les pages et l'application de Radio France.
Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et qu'en quelques bistrots, contre un bon repas chaud, t'en est une toile. En oubliant l'hiver.
Bon, alors si on se revoit, qu'est-ce que je vous cuisine ?
Prochain épisode.
Mais je préférerais la surprise, non ?
La fabrique du goût.
Ce que vous aimez cuisiner. Parce qu'il y a quand même une question d'amour là-dedans. Donc, bah oui. Vous n'allez pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas pour me faire plaisir.
Quoi. C'est pas ça la définition de l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas, non ?
Oula ! Alors, écoute, une autre émission.
Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, la bohème. Et nous mangions qu'un jour sur deux.